Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Aïna Tiemtoré.
Situation nationale, le président du FASO a échangé aujourd'hui avec les leaders coutumiers et traditionnels. Objectif, demander leur implication et leur concours pour un retour de la paix dans le pays. Le président d'Amiba a échappé à deux tentatives de coup d'État depuis sa prise de pouvoir. C'est ce qu'a laissé entendre Pascal Zaïda, porte-parole de la Coordination nationale pour une transition réussie ce jeudi au cours d'une conférence de presse. Financement du plan d'action de la transition, le gouvernement burkinabé attend à peu près 3 000 milliards de francs CFA de ses partenaires techniques et financiers pour l'exécution du plan d'action de la transition. Il a initié une rencontre ce jeudi à Ouagadougou. L'affaire des soldats ivoiriens arrêtés le 10 juillet ne cesse de susciter de nouveaux rebondissements. Le gouvernement malien a annoncé la suspension de toutes les rotations de contingents militaires et policiers de la MINUSMA à compter d'aujourd'hui. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Situation nationale, le président du FASO a rencontré ce jeudi en fin de matinée les leaders de la chefferie coutumière et traditionnelle. Une rencontre d'échange pour demander leur implication et leur concours pour un retour de la paix au Burkina Faso. Le point avec Asma Odao.
Selon la présidence du FASO, le président de la transition, Paul-Henri Damiba, a déclaré que la chefferie traditionnelle et coutumière a toujours été le garant de l'unité nationale et de la cohésion au Burkina Faso. Et c'est pour cela qu'il a initié cette rencontre d'échange pour demander leur implication et leur concours pour un retour de la paix dans notre pays. La situation actuelle du Burkina Faso nous interpelle tous et surtout les chefs coutumiers et traditionnels en premier lieu car ils sont les dépositaires des valeurs ancestrales et culturelles. Le lieutenant-colonel a par ailleurs invité les chefs coutumiers et traditionnels à orienter leurs efforts vers la recherche de la cohésion et de l'unité nationale, peut-on lire dans le communiqué publié par la présidence du FASO. Le 29 juin dernier, les chefs supérieurs coutumiers et traditionnels avaient interpellé les autorités du pays à concentrer leur énergie dans la lutte contre le terrorisme, le recouvrement de l'intégrité du territoire. Ils avaient aussi interpellé des Burkinabés qui ont des armes en main à les déposer, à revenir à la raison et à la maison.
Au cours de la rencontre, le chef de l'État a rassuré les chefs coutumiers que sa rencontre avec les anciens présidents ne vise pas à restaurer un ordre ancien. Nous l'écoutons.
Majesté et chef de canton, la situation actuelle du Burkina Faso nous interpelle tous, mais surtout vous en premier lieu, car vous êtes dépositaire de toutes les valeurs ancestrales et culturelles de notre pays. Je voudrais, en ces moments difficiles, vous inviter à orienter vos efforts vers la recherche de la cohésion et de l'unité nationale. Je voudrais, à travers vous, inviter toutes les populations de vos contrées à faire bloc derrière les forces de défense et de sécurité et les engagés civils dans la lutte contre les forces du mal. Messieurs les responsables coutumiers, cette rencontre me donne aussi l'opportunité d'évoquer la démarche que j'ai eue avec les anciens chefs d'État, rencontre que nous avons bien voulu ici au Burkina Faso, sur la terre de nos ancêtres. Pour diverses raisons déjà relayées par voie de presse, tous n'étaient pas au rendez-vous. Nos échanges étaient essentiellement orientés vers la concertation, le dialogue, la recherche de solutions pour une véritable harmonie nationale, gage de notre succès dans la lutte contre la violence extrémiste. Car nous sommes profondément convaincus que c'est dans la mobilisation totale de tous que les forces engagées dans la lutte contre le terrorisme engrangeront davantage de résultats sur le terrain. Loin de nous l'idée de restaurer un quelconque ordre ancien ou de consacrer l'impunité dans notre pays.
Dans la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso, le mouvement Burkina-Russie estime que la coopération économique et militaire entre le Burkina et la France a montré ses limites et, comme son nom l'indique, il prône une coopération bilatérale entre le Burkina et la Russie. Ses membres l'ont fait savoir au cours d'une conférence de presse aujourd'hui à Ouagadougou. Plus de détails avec Abdulaziz Zoulabou.
Le Burkina Faso compte actuellement près de 2 millions de déplacés internes avec plus de 40% du territoire assiégé par les groupes armés terroristes. C'est une peinture de la situation sécuritaire faite par le mouvement Burkina-Russie qui appelle de vive voix le président Damiba à entreprendre des démarches avec le président russe Vladimir Poutine. Barthélémy Zaongo est le porte-parole du mouvement.
La Russie peut nous aider avec des armements, concrètement parlant, parce qu'on n'en a pas l'armée même quand nous causons avec les gendarmes, les FDS. Ils disent qu'il y a un manque d'armement. Mais c'est tout ça, c'est lié aux accords. Voilà, les accords secrets qui nous lient avec l'ancienne puissance coloniale, qui ne nous permet pas de diversifier ses partenariats. Voilà, donc la Russie peut vraiment nous aider, voilà, avec des conseillers militaires, avec de l'armement.
Outre la question du choix de partenaires, la réconciliation nationale est aussi une des conditions nécessaires pour venir à bout de ce phénomène, fort de Barthélémy Zaongo.
Et nous ne pouvons pas demander, comme je le disais tantôt, à des gens qui sont à des milliers de kilomètres de venir nous aider, alors que nous-mêmes, nous ne nous parlons pas. Ça ne marche pas. Donc, nous ne voulons pas vraiment que les Burkinabés soient divisés. Alors, plus de 40% de la population du territoire est déjà pris par les terroristes. Donc, nous demandons vraiment aux Burkinabés de s'unir d'abord.
Le mouvement Burkina-Russie souhaite également qu'il y ait une révolution judiciaire, chose qui va lui consacrer son indépendance réelle. Quel que soit le statut d'une personne, elle devra pouvoir se mettre à la disposition de la justice si des faits lui sont reprochés, affirme-t-il.
Quelques heures après la sortie du mouvement Burkina-Russie, c'était au tour de la Coordination nationale pour une transition réussie de se prononcer sur la gestion de la transition. Selon cette structure, dirigée par Pascal Zaïda, également député à l'Assemblée législative de transition, le président Damiba a échappé à deux tentatives de coup d'État depuis sa prise de pouvoir. On l'écoute au micro de Valérie Traoré.
Le président Damiba, il m'a raconté lorsqu'il y a eu la grève des OSC. Moi, je vais lui dire d'écouter ce qu'on dit. Ceux qui le concernent vont le mettre en bouche. Profil bas, on va ensemble construire ce pays. À l'endroit de la classe politique, nous sommes dans un coup d'État, ce n'est pas une insurrection. Il y a des ambitions démesurées des uns et des autres. C'est vrai, c'est normal. Mais regardez ce qui nous unit. Qu'est-ce qu'on doit faire de nous après-demain? J'ai demandé et je l'ai fait dire au président Damiba, nous avons besoin que les élections à venir, il n'y a pas d'exclusion. Qu'on donne la chance à tous les candidats, le meilleur n'a qu'à gagner. Une forme de transmission de pouvoir, nous ne sommes pas d'accord. Et à partir de là, le pays va avancer. Donc aujourd'hui, il y a trop de problèmes. Le pays, ça ne va pas. Je vais vous dire ça aujourd'hui. Du mois de mai à juin, Damiba a échappé à deux coups d'État. Comprenez? Nous sommes à l'ALT, nous sommes réduits à Néa. Depuis le Bambou est là, peu de moyens. Mais lorsque je les parle, on dit que c'est un fou. Il n'y a pas de problème. Mais est-ce que vous pouvez continuer à parler, à conseiller, à éduquer, à informer, à aider? Ce n'est pas possible.
Financement du plan d'action de la transition. Le gouvernement burkinabé attend à peu près 3 000 milliards de francs CFA de ses partenaires techniques et financiers pour l'exécution du plan d'action de la transition. Afin de mieux leur présenter le plan, il a initié une rencontre ce jeudi à Ouagadougou. Les précisions avec Moumouni Yaro.
Le plan d'action de la transition adopté le 6 mai dernier en Conseil des ministres demande une enveloppe globale de 11 840 milliards de francs CFA, mais un gap de 2 999 milliards 201 millions, soit 25,33%, perturbe son exécution. et les autorités attendent des partenaires techniques et financiers un appui à même d'aider à combler ce gap. Albert Ouédraogo, Premier ministre.
Certains partenaires s'étaient un peu rétractés, bien sûr d'autres ont continué, mais il était important qu'on puisse donc leur demander leur réengagement et en indiquant surtout les priorités que nous avons définies dans le plan d'action de la transition. Et en ce qui concerne le manque à gagner, il est autour d'un tiers du budget.
Cette rencontre avait donc pour but de permettre au PTF de s'imprégner du plan, mais également de les mettre au parfum de l'accord de la mise en œuvre de la transition avec la CEDEAO. Albert Ouédraogo.
Nous sommes parvenus avec la CEDEAO à un compromis sur la mise en œuvre de la transition. Et il était également important que nous puissions rencontrer les partenaires techniques et financiers du Burkina Faso pour leur expliquer cet accord et demander leur réengagement.
Le plan d'action de la transition se fonde sur deux axes. Les actions structurantes du PNDS2, Plan national de développement économique et social, et l'agenda de la transition.
Cap à présent sur FADAR, où le Parti panafricain pour le salut PPS a fait un don de 40 tonnes de riz aux personnes déplacées internes de la ville. La cérémonie de remise a eu lieu mercredi à FADA. Ce don vise à réconforter et exprimer la compassion du parti à l'endroit de ces personnes victimes de déplacements forcés. Moumouni Tamboura y était sans compte-rendu.
Ce don leur a été remis par le président du parti, Abdoulaye Moussé. Et c'est à travers ces 40 tonnes de riz et 10 taureaux promis que le Parti panafricain pour le salut a témoigné sa compassion et sa solidarité aux personnes déplacées internes qui ont trouvé refuge dans la cité de Yendabli. Abdoulaye Kadima, porte-parole des déplacés.
C'est une majeure parce qu'à l'heure actuelle, nous avons des déplacés jusque là qui n'ont même pas reçu un grain de quoi manger. Et je pense que les 40 tonnes est à point nommé. Il y a un effort qui reste encore à faire. Ce que nous souhaitons, c'est que d'ici là, que chacun d'entre nous retourne dans les villages respectifs. Ça, c'est un. Mais aussi voir le côté éducation de nos enfants qui, aujourd'hui, on ne sait même pas où ils vont aller. Mais nous souhaitons aussi que d'autres donateurs fassent le pas, comme l'a fait le PPS aujourd'hui.
Ce geste de solidarité, selon les donateurs, est une invite aux autorités à ouvrir l'œil sur la situation sécuritaire délétère qui endeuille le Burkina Faso. Et aussi, la cohésion sociale, la quête de la paix et la stabilité sont dans le panier des objectifs qui ont conduit les premiers responsables du PPS dans le Grouma. Abdoulaye Moussé, président du PPS.
Nous nous inscrivons dans la ligne de la solidarité pour ne laisser personne bout de chemin, puisque nous nous sommes dit que le Burkina Faso, c'est comme en 1947, on doit tout faire de la même manière que nos ancêtres nous ont légué le Burkina Faso, c'est de faire de telle sorte, par tous les moyens, pour que les jeunes ne perdent pas leur dignité, il faut contribuer également dans l'alimentation.
À l'occasion de la fête de l'Aïd El-Kabir, le parti avait fait un don de 40 tonnes de riz et 10 taureaux aux déplacés internes de la commune de Bourasso. Au Burkina Faso, le nombre des déplacés internes représente environ 10% de la population, un chiffre qui interpelle les donateurs du jour qui émettent le vœu de voir la fin de la crise sécuritaire dans un court terme.
Le syndicat national des fonctionnaires de l'éducation du Burkina, SINAFEB, a tenu une conférence de presse ce jeudi au sein de son siège à Ouagadougou. Cette rencontre syndicale dénonce son exclusion par le ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales dans le processus de relecture du statut particulier où se joue l'avenir de leur carrière, suivant le compte-rendu de Marina Ouédraogo.
Après une minute de silence à mémoire de nos FDS et VDP tombés sur le champ de bataille, le syndicat national des fonctionnaires de l'éducation du Burkina a exprimé son mécontentement pour son exclusion dans le processus de réélecture du statut particulier engagé par le ministère en charge de l'éducation. Les conférenciers ont également, au cours du rendez-vous avec les hommes de médias, dénoncé ce qu'ils ont qualifié d'inachèvement juridique de la loi 081. Koudougou Robert Kabore, secrétaire général du SINAFEB.
C'est la norme spéciale qui surplombe. Et le statut ne peut pas indexer l'article 13 de la loi 81, cette loi qui n'est pas appliquée, pour prendre un statut. C'est un statut caduque. Voilà. Et nous demandons aux gens de comprendre ça. Nous rejetons le statut et il est inconcevable qu'on utilise ce statut pour nous administrer. S'ils sont soucieux du Burkina Faso, de l'avenir de nos enfants, eh bien, ils n'ont qu'à appliquer la loi. Le Premier ministre a dit qu'il a compris. La lettre est avec vous. Si ce qu'on disait là, c'était des balivernes, peut-être que la réponse était autrement.
Pour le SINAFEB, sa caducité, son incohérence et son caractère discriminatoire sont essentiellement les trois points qui ont amené le rejet du statut particulier, d'où la demande de sa relecture. Kudugu Robert Kabore, secrétaire général du SINAFEB.
Un certain accord entre le gouvernement et des organisations syndicales pour ne pas nous payer nos droits. Ce que la loi dit de faire, il faut le faire. Malheureusement, dans notre justice également, il y en a. Nous nous demandons, est-ce que réellement la justice qu'il faut rendre, ou bien qu'est-ce qui se passe? Comment une loi dit, pour avancer, il faut des notes. Et il y a deux types d'avancement. On avance en échelon, on avance en classe. L'avancement d'échelon, nous en avons bénéficié sur la base de ces notes. Et l'avancement de classe, on dit qu'il faut un accord. Pourtant, la loi dit, il faut opérer ça. Ce n'est pas injuste de venir fabriquer autre loi. Il n'y a pas d'obscurité dans la loi. Il y a la mauvaise foi d'appliquer la loi.
Tout en attendant la prise en compte de leurs suggestions et préoccupations au bénéfice du personnel de l'éducation, le syndicat national des fonctionnaires de l'éducation du Burkina invite tous ses acteurs et militants du monde de l'éducation à rester mobilisés.
On en vient à présent à l'actualité hors de nos frontières. Le gouvernement malien a annoncé aujourd'hui la suspension de toutes les rotations militaires de la MINUSMA. La décision prend effet à compter de ce jour, n'est-ce pas Lamine?
En effet, toutes les rotations des contingents militaires et policiers de la MINUSMA, y compris celles déjà programmées ou annoncées, sont suspendues, indique une note non publique du ministère malien des Affaires étrangères, dont Omega a pu obtenir copie. Les rotations, c'est-à-dire les relèves, les départs et les arrivées de ces hommes sont bloquées dès ce jeudi, et ce jusqu'à la tenue d'une réunion de coordination selon la note, dont la date n'a pas encore été fixée, et au cours de laquelle les autorités maliennes et la MINUSMA devront dégager un plan optimal pour faciliter la coordination et la réglementation de la rotation des contingents onusiens, a précisé la note des Affaires étrangères. La MINUSMA a aussitôt réagi et s'est dit prête à engager les discussions avec le gouvernement sans délai pour la relève de ses soldats. Tout doit être fait pour son règlement urgent, d'autant que certains des personnels concernés auraient dû être relevés il y a plusieurs mois, peut-on lire dans le communiqué. La MINUSMA compte 15 000 militaires et policiers au Mali fournis par une cinquantaine de pays contributeurs issus de plusieurs pays différents.
Alors, Lamine Traoré, une suspension des rotations militaires de la MINUSMA qui intervient alors que l'affaire des soldats ivoiriens arrêtés dimanche dernier continue de créer la polémique.
Oui, des soldats qui sont toujours détenus à Bamako car considérés comme des mercenaires selon le Mali. Et le pays compte traduire ses 49 soldats ivoiriens en justice. En Côte d'Ivoire, les autorités affirment qu'il s'agit de soldats réguliers déployés en soutien à la mission des Nations Unies dans le pays avec le statut des NSE, des éléments nationaux de soutien. Les éléments arrêtés ont été enregistrés dans les fichiers de la MINUSMA. Ces détachements de soutien national existent régulièrement, a affirmé le colonel Gezoa Maï Arma, conseiller aux opérations extérieures du chef d'état-major général des armées, indiquant qu'il s'agit de disposer d'une base logistique au profit des personnels déployés au compte de la MINUSMA. L'ONU, de son côté, estime que les soldats ivoiriens n'étaient pas considérés comme des NSE. Les troupes ivoiriennes n'appartiennent pas aux forces de la MINUSMA. Une requête de la Côte d'Ivoire pour déployer des éléments nationaux de soutien a été approuvé en 2019. Cependant, aucune troupe n'a été déployée sous cette convention depuis ce moment-là, a déclaré Farad Fak, porte-parole des Nations Unies. Nous encourageons vivement les deux pays à travailler ensemble pour résoudre la situation et permettre la libération des troupes détenues, a-t-il ajouté.
En Côte d'Ivoire, toujours, le président Alassane Ouattara reçoit aujourd'hui ses prédécesseurs Henri Konan Bédier et Laurent Gbagbo. Cette rencontre avait été évoquée durant le dialogue politique Organisée en début d'année, elle doit servir à faire avancer la réconciliation après les crises de 2010, 2011, puis 2020, mais également préparer les prochains scrutins de 2023 jusqu'à la présidentielle de 2025. Une rencontre qui se tient quelques jours après celle des anciens chefs d'État burkinabais autour du lieutenant-colonel Damiba. À marge de la visite d'amitié et de travail du président nigérien au Tchad, Mohamed Bazoum et son homologue tchadien Mahamat Idriss Déby ont évoqué la question de l'opérationnalisation de la force conjointe du G5 Sahel. Les deux chefs d'État ont affiché leur engagement à jouer les premiers rôles au sein de cet espace sous-régional. Un accord militaire entre le Tchad et le Niger a été signé à cet effet. Adams Khaled Ouedraogo pour plus de précisions.
Faire renaître la force conjointe du G5 Sahel de ses cendres, c'est la volonté affichée par le président du Conseil militaire de transition du Tchad, le général Mahamat Idriss Déby et le président nigérien Mohamed Bazoum. Un engagement qui s'est matérialisé par la signature d'un accord de coopération sécuritaire entre les deux pays. Lors d'un point de presse tenu en marge de cette visite d'amitié et de travail du président nigérien Mohamed Bazoum au Tchad, question du retrait du Mali du G5 Sahel s'est invitée au cœur des échanges. Nous regrettons ce retrait et espérons que le Mali revienne sur la décision prise parce que la lutte contre le terrorisme est un combat qu'un pays ne peut pas faire seul, a déclaré Mahamat Idriss Déby à l'AFP. Une rencontre a été annoncée très prochainement par Mohamed Bazoum dans l'optique de passer outre les divergences et d'envisager un retour du Mali au sein du G5 Sahel. Le 15 mai 2022, le Mali avait annoncé son retrait de tous les organes et instances du G5 Sahel, y compris la force conjointe, dénonçant le refus qui lui a été opposé d'assurer la présidence de cette organisation régionale.
Peine de mort pour 5 anciens responsables gambiens. Un tribunal de Banjul a condamné à mort mercredi 5 ex-responsables des renseignements gambiens pour le meurtre en avril 2016 d'un opposant sous la dictature de l'ex-président Yahya Jammeh. Et Brima Solo Sandeng, figure du United Democratic Party, était mort en détention 2 jours après avoir été arrêté après une manifestation contre Jammeh, qui dirigeait la Gambie depuis 1994. Les tortures et le meurtre de ce militant avaient galvanisé l'opposition jusqu'à la faible et divisée et précipité la chute du dictateur. Feuilletons à présent les parutions du jour. Aucun peuple ne peut assister aussi longtemps et passivement à son extermination. C'est l'opinion de notre confrère Bobolet, l'Express du Faso. Il comprend l'inquiétude de l'armée d'armée des civils qui peut aboutir à une guerre civile. Mais si c'est cela qui est imposé aux Burkinabés, ils n'auront certainement pas le choix selon le journal. Et hors de chez nous, les journaux donnent leur point de vue sur l'arrestation de militaires ivoiriens en Côte d'Ivoire et la rencontre entre Ado, Bédié, Gbagbo en Côte d'Ivoire. Voyons tout cela en détail avec Asma Odao.
Dans sa livraison du jour, l'Express du Faso se demande si les terroristes ne sont pas en train de réussir leur coup. Le journal dit comprendre l'inquiétude des autorités militaires si toutefois les populations décidaient de se défendre elles-mêmes. Parce qu'on pourrait tout de suite aboutir à un conflit civil. Mais si c'est cela qui est imposé aux Burkinabés, ils n'auront certainement pas le choix car aucun peuple ne peut assister aussi longtemps et passivement à son extermination. Outre ce sujet au plan national, l'arrestation de militaires ivoiriens fait couler assez d'eau sous les ponts des confrères quand on voit l'Observateur Palga titré « Présumés mercenaires ivoiriens au Mali, Kafka à Bamako ». La guerre des déclarations fait en tout cas déjà rage, selon le doyen des quotidiens, qui estime qu'on assiste à une véritable cacophonie politico-militaire où même une vache ne saurait retrouver son veau. S'il ne s'agissait que des versions ivoiriennes et maliennes, on aurait pu encore démêler le vrai du faux. Mais hélas, alors qu'on attendait une certaine clarification de l'ONU qui devait jouer dans cette affaire de rôle de témoin, on nage en plein doute. Et le confrère Le Pays d'estimer qu'il y a des non-dits, se demandant si les autorités de Bamako ne cherchent pas à faire de ces soldats ivoiriens une prise précieuse contre Abidjan. Selon le journal, il ne faut pas oublier la position du président Ado au sein des instances de la CEDEAO, mais également l'affaire Karim Keïta, du nom de ce fils de l'ex-président Ibeka, réfugié en Côte d'Ivoire, depuis la chute de son père dans les conditions que l'on sait et qui semble bénéficier de la bienveillance de la bienveillance et de la protection du locataire du palais de Cocody aux grandes dames des autorités de Bamako qui ont délivré un mandat d'arrêt international contre lui. Sidoya, le quotidien d'État demande de taire les bagarres inutiles, de projets déstabilisateurs et conjuguer les efforts pour une stabilité de l'Afrique de l'Ouest. On n'a pas besoin de faire un dessin pour signifier cela à nos chers gouvernants. L'heure est grave, prévient Sidoya. Et du Mali, direction la Côte d'Ivoire, rencontre Ado Bédié Gbagbo en Côte d'Ivoire ce jeudi. Pourvu que la sincérité soit au rendez-vous, espère le confrère Le Pays qui souligne que les Ivoiriens en attendent beaucoup. Pour aujourd'hui, au Faso, le projet de loi que tout candidat qui atteint 75 ans est hors compétition pour la présidentielle est dans la tête des vieux pachydermes de la lagune Ébriée. Vont-ils d'un commun accord accepter de valider ce projet en projection de 2025? L'issue de cette rencontre à trois pourrait être déterminante dans l'avenir politique du pays d'Oufoué.
Voilà, c'est la fin de ce journal réalisé par Fidèle Campaoré. Merci de l'avoir suivi.
Radio Omega, l'info en direct.